Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Le président de la République a dit réaffirmer l'attachement du gouvernement malien à l'accord pour la paix et la réconciliation, quitte selon lui à en discuter certaines dispositions. Et le Grand Dialogue de Studio Tamani évoque le sujet ce soir avec quatre invités. Moussa Gataer de la CMA, Fahad Ag Al-Mahmoud de la plateforme, professeur Issa Ndiaye, universitaire écrivain, et Souleyman D, constitutionnaliste chargé de cours à l'université de Bamako. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, le président de la République a évoqué la possibilité de réviser l'accord pour la paix et la réconciliation. Moussa Gataer, quelle est la position de la CMA par rapport à cette question?
Bonsoir et merci de nous offrir encore cette opportunité de débattre sur des questions d'actualité et aussi des questions qui engagent l'avenir de la nation et de vivre ensemble dans un pays qui traverse des difficultés depuis un certain temps. Maintenant, pour les propos du président de la République tenus à l'occasion de son discours du 22 septembre, anniversaire de l'indépendance du Mali, ont laissé beaucoup de traces d'interrogation au niveau de la CMA. Et surtout, ses propos n'explicitent pas clairement de quelles dispositions on parle, qu'est-ce qui sera concerné dans cette relecture à laquelle fait référence le président de la République. Donc, nous sommes plutôt dans une posture d'attente, de compréhension, d'explication de ces propos-là. Maintenant, notre position vis-à-vis de l'accord, en général, elle est très claire. C'est qu'il y a un accord qui est signé par plusieurs parties, dont le gouvernement du Mali, et chaque parti s'est engagé à respecter scrupuleusement la lettre et l'esprit de l'accord jusqu'à sa mise en œuvre intégrale. Donc nous ne sommes pas de ceux qui aujourd'hui pensent que relire l'accord, revenir sur certaines dispositions, réorienter quoi que ce soit dans cet accord soit la solution aux difficultés que nous traversons dans sa mise en œuvre.
D'accord. Fahad Al-Mamou, quelle est la position de la plateforme sur la question?
Merci beaucoup, M. Touré, de m'offrir l'opportunité de m'exprimer aussi sur le sujet. Effectivement, nous avons entendu, lors du discours d'anniversaire du 22 septembre du président de la République, parler d'une possible réélecture de l'accord tout en gardant l'esprit. Donc, je pense qu'à ce stade, on ne peut pas faire un débat franc parce que nous ne savons pas les partis visés par le discours du président de la République. Tout ce que nous savons, c'est que l'accord lui-même, dans son article 65, parle du consensus, de l'entente entre toutes les parties avant de modifier quoi que ce soit dans l'accord. Cet article, si je peux caricaturer, ressemble à une porte. La porte, c'est à la fois l'entrée et la sortie. Donc, il peut servir à la modification de l'accord, comme aussi c'est un garant pour les parties de garder l'accord en tant que tel pour avoir le consentement de tout le monde. Ceci étant, ce n'est pas la seule porte d'entrée depuis plus d'un an exactement. Le gouvernement du Mali et les Nations Unies ont signé un document qui s'appelle le Pacte pour la paix, auquel les mouvements signataires ont adhéré. Ce Pacte pour la paix prévoit clairement qu'en cas de litige, la médiation internationale procède à des arbitrages. Les décisions de la médiation internationale sont exécutoires. Et donc, il est bien possible de discuter du contenu de l'accord. Mais il faut savoir sur quelle partie on va discuter. Tout ce que je sais, moi, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans l'accord à ce stade sans toucher à quoi que ce soit, qu'une disposition constitutionnelle du Mali.
D'accord. Je rappelle que nous avons invité le ministère de la Réconciliation et le bureau du haut représentant du président de la République, mais nos tentatives sont restées vaines. Souleymane D, est-ce qu'il faut réviser aujourd'hui l'accord pour la paix et la réconciliation?
Écoutez, avant d'entamer mes propos, permettez-moi de dire, comme mes prédécesseurs, bonsoir à vos auditeurs et auditrices, aussi à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Cette question sur l'accord nous préoccupe énormément et nous intéresse à plus d'un titre. Moi, je pense très sincèrement que ça a été dit tout de suite par Fahad, que l'article 65 de l'accord prévoit en son sein la possibilité de pouvoir retoucher certaines dispositions, mais sur la base, bien entendu, d'un consensus de toutes les parties qui ont signé les dix accords. D'autant plus qu'effectivement, il y a le pacte pour la paix entre le Mali et les Nations Unies qui exige à aller vers une application immédiate, intégrale, dans la mise en œuvre. Et lorsqu'on a des difficultés en la matière, bien entendu, en tout cas lorsque les parties rencontrent des difficultés, elles pourraient s'ériger et apporter des arbitrages qui sont d'office exécutoire. Moi, à mon avis, le problème aujourd'hui de cet accord n'est pas du tout une question de problème par rapport aux dispositions. Le problème de l'accord, on ne l'a pas touché. C'est une question de compréhension sur les vocabulaires et une question de bonne foi des parties. Quand je dis compréhension du vocabulaire, c'est que vous avez vu, par exemple, le mot qui touche tout le monde, la terminologie qui affecte les débats partout, c'est le terme Azawad. Le gouvernement n'a pas la même signification du terme Azawad et les groupes armés ont leur propre définition du terme Azawad. Lorsqu'on part dans une discussion pour avoir un accord et que les parties ne s'entendent pas sur les termes, il va de soi que dans sa mise en œuvre, on va rencontrer des difficultés. Premier point. Deuxième élément, il y a la bonne foi des parties. Est-ce qu'en allant à cet accord, les parties étaient de bonne foi? Est-ce que les groupes armés étaient réellement de bonne foi pour aller vers la paix? Aujourd'hui, tout laisse à croire que ce n'était pas le cas. Et c'est ce que les Maliens voient. À mon avis, les difficultés d'application de cet accord résident à deux points majeurs. La remise en cause de l'ordonnancement juridique, et ça c'est trop technique, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça permet quand même d'éclaircir un certain nombre de doutes dans la tête des Maliens. L'élaboration délicate de l'accord ne veut pas dire que c'est un traité. On l'a dit mille fois, cet accord n'est pas un traité. C'est un accord politique entre Maliens, même si on a aujourd'hui l'accompagnement de la communauté internationale. Et c'est là, se justifie par la capacité juridique limitée des parties. Parce que lorsqu'on parle d'un traité, c'est bien sûr les sujets de droit international qui peuvent intervenir. Or, cet accord est entre les Maliens. Donc, si l'État du Mali était un sujet de droit international, je ne pense pas que les groupes armés en soient pareils. Et du coup, vous avez le contenu controversé, comme Fahad aussi vient de dire, de l'accord. Il y a des éléments dans la disposition, il y a des dispositions de l'accord qui frisent, au moins, qui font frémir quand on les entend. Et mais là encore, une fois de plus, en cela, on voit la difficile insertion dans l'ordre juridique interne. C'est-à-dire, quelle est la valeur juridique de l'accord? Ça, c'est un débat qui est tranché par la Cour constitutionnelle du Mali dans son arrêt du 5 mai 2016 et dans son arrêt du 2 juin 2017. Ce qui signifie que la Cour constitutionnelle du Mali a érigé l'accord dans le bloc de constitutionnalité. Ça ne pose plus ces problèmes. Ce débat n'existe plus. Et donc, deuxième point, c'est la persistance d'une applicabilité incertaine. Vous avez vu que l'accord nous demande d'aller vers des réformes majeures. Et ces réformes majeures, elles sont à la fois matérielles qu'organiques. On n'arrive pas à faire les réformes matérielles, on n'arrive pas à aller vers les réformes organiques. Et enfin, vous devez vous rendre compte qu'il y a un frein lié au contrôle d'exécution. Et ça, c'est surtout l'impuissance aujourd'hui du CSA à faire respecter le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord par le fait simplement de l'inversion des priorités. Voyez-vous, c'est une inversion des priorités qu'on a. Et pour finir et vous dire tout, c'est que quand on parle d'un accord, c'est un accord pour la paix. Ce n'est pas un accord de paix. Et pour la paix, il a été dit de façon très claire qu'on préserve l'intégrité. On ne touche pas à l'intégrité territoriale du Mali. Et un certain nombre de lignes rouges ont été tranchées pour maintenir et préserver et garantir l'état unitaire de ces pays. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dans une organisation.
On va y revenir tout de suite avec beaucoup plus de détails.
Bien sûr. Professeur Issa Ndiaye, que pensez-vous de cette intervention du président de la République, puisqu'il y a Moussa Agataer et Fahad qui disent qu'ils ont beaucoup d'interrogations parce que le discours ne semble pas clair pour eux?
Moi, j'ai un handicap majeur parce que intervenir par téléphone là, avec la qualité du réseau qu'on a, souvent, fait qu'on se fait mal comprendre ou on n'a pas la réactivité nécessaire, quoi. Mais je voudrais dire que le président touche à une question essentielle dans la mesure où toutes les parties constatent, que ce soit les parties maliennes et les parties extra-maliennes, constatent qu'il y a des difficultés dans l'application de l'accord. Donc s'il y a des difficultés dans l'application de l'accord, la raison veut qu'on se penche sur ces difficultés, on voit qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque et comment faire pour lever ces blocages-là. À mon avis, je pense que le fond du problème de l'accord d'Alger, moi je continue à dire l'accord d'Alger, l'esprit est malsain. Il est malsain pourquoi ? Parce qu'il a été pensé de l'extérieur et imposé de l'extérieur, aussi bien au gouvernement malien qu'au groupe rebelle. Et ça pose aujourd'hui problème quand on dit aux Maliens de s'en approprier. Parce que ce n'est pas un accord de paix entre Maliens, on n'a pas demandé l'avis des populations maliennes. On a imposé quelque chose aussi bien au gouvernement qu'au rebelle. Bon. Et on a été intraitable par rapport au gouvernement, parce qu'on a dit au gouvernement à l'époque qu'il voulait modifier les choses. C'est à prendre ou à laisser. Mais on a laissé la possibilité, on a fait un an, donc d'aller consulter sa base et de revenir. Donc ça pose un certain nombre de problèmes de légitimité populaire parce que les Maliens n'ont pas été concertés. Bon, si aujourd'hui on doit revenir sur la question, moi je pense que la première condition, c'est d'expliquer aux Maliens qu'est-ce que l'accord d'Alger. Parce que la grande majorité des Maliens ignorent tout. Et je suis sûr que même à Menaka ou à Kidal, l'ensemble des populations n'est pas au courant des dispositions de l'accord d'Alger. Donc, premier problème. Donc, s'il faut débattre de quelque chose, il faut y impliquer les populations. Parce que jusqu'ici, toutes les rébellions qu'on a connues, les solutions ont été traitées de l'extérieur à Alger. Il est important maintenant que ce soit les Maliens qui s'essayent entre Maliens et trouvent la solution au problème du Mali et entre Maliens. Je pense que c'est la condition sine qua non. Ça veut dire qu'il faut expliquer les accords. Moi, j'ai lu l'accord d'Alger. À mon avis, le problème n'est pas ce qui est dit dans l'accord. Hein. Le problème, c'est ce qui est non dit de l'accord. Parce que si les dispositions qui sont prévues, si on veut les appliquer, par exemple, les dispositions concernant les politiques de régionalisation à mener, il y a des craintes pour bon nombre de Maliens que ceci ne soit la porte ouverte vers la partition du Mali. Or, quand on voit le comportement d'un des acteurs les plus importants comme la CNA, qui continue donc à brandir à Kidal le drapeau donc, de la Zawad, à fêter les anniversaires de la Zawad, ça ne crée pas une situation de confiance. Et quand on voit les méthodes aussi qui sont utilisées, et chaque fois qu'il y a des problèmes, donc c'est les ultimatums. Donc, il est temps de sortir de ces schémas-là, de s'asseoir et de discuter entre Maliens, véritablement entre Maliens. Et maintenant, dire à la communauté internationale, sur ces questions-là, vous vous êtes fourvoyés, voici ce que les Maliens veulent entre Maliens pour amener la paix. Je pense que c'est à ces conditions-là qu'on peut relever les défis de l'application de l'accord.
Moussa Agataya, vous estimez que la relecture de cet accord n'est pas la solution aux difficultés auxquelles le document fait face aujourd'hui. Alors, est-ce que les problèmes soulignés par Souleymane Diaye, qui est la bonne foi des acteurs, et celui souligné par le professeur Issa Ndiaye, qui est l'esprit malsain de cet accord, est-ce que ce sont les deux principaux problèmes ?
Bon, les problèmes, ils sont tellement nombreux que je pense que chacun peut, à partir de son analyse propre et de sa lecture propre, imaginer ce qui constitue réellement le problème. Maintenant, on n'a pas la même lecture, tout compte fait. Aujourd'hui, on a affaire, dans ce débat-là, à des intellectuels, des professeurs d'université, vers qui, aujourd'hui, les yeux sont tournés pour aider, justement, à la compréhension et à l'appropriation de cet accord par l'ensemble des Maliens. Et je pense que cette mission qui est à l'air aujourd'hui impose également un certain recul vis-à-vis de nos positions personnelles à l'égard des acteurs. Ça nécessite aussi une pédagogie qui ne laisse pas trop de place aux accusations envers qui que ce soit. Tout compte fait, cet accord est signé et je pense que le débat qui cherche à confondre l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger et des traités internationaux, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous avons affaire à un accord intérieur, un accord national entre des parties maliennes.
Est-ce qu'il a été imposé, comme le pense professeur Ndiaye, par l'extérieur?
Bon, ça dépend du sens qu'on donne au mot. Si imposé veut dire que les parties ont signé sans avoir chacune tout ce qu'elles voulaient, peut-être oui. Parce que personne n'a signé cet accord en disant que j'ai eu ce que je veux. Ni le gouvernement, ni la CMA, ni la plateforme. Et c'est justement ça aussi le sens même d'un accord. Un accord, c'est un ensemble de compromis. Ces compromis ont nécessité pour chacun de surseoir à un certain nombre de ses revendications, de ses attentes, pour trouver un cadre qu'on peut utiliser pour arriver à la paix. Et c'est ça l'accord pour la paix et la réconciliation ici du plus d'Alger. Je souhaite aussi qu'on limite un peu l'accentuation des doutes dans la tête des Maliens. Quand on dit qu'il y a des non-dits dans l'accord, quand on dit que l'accord porte en lui les germes de ci ou cela, franchement, on n'est pas en train d'aller dans cette pédagogie dont j'ai parlé qui veut que tous les Maliens s'approprient cet accord. Il n'y a pas de non-dit. Tout est clair dans cet accord.
Alors, qu'est-ce qui bloque sa mise en œuvre aujourd'hui?
Il y a eu depuis 4 ans que cet accord a été signé, 4 ans et plus. Il y a eu des difficultés dans la mise en œuvre de l'accord qui, au départ, étaient liées surtout à des questions de confiance, à un problème de confiance entre les acteurs. On est arrivé à cet accord avec des positions très difficiles, très divergentes. Et lorsqu'on l'a signé et qu'on s'est mis ensemble pour le mettre en œuvre, les acteurs ont mis du temps pour croire à la bonne foi des uns et des autres. D'ailleurs, certains continuent même à rester encore dans cette position. Ensuite, il y a eu un certain nombre de dispositions de l'accord qui devraient être mises en œuvre depuis longtemps, qui sont qui devraient être le point de départ de la mise en œuvre de l'accord. On les a négligées ou il y a eu encore un problème de bonne foi. On a parlé dès le début des patrouilles mixtes, on a parlé des EMOV. Tout cela n'a jamais été une réalité sur le terrain. Et maintenant, on assiste encore aujourd'hui, après avoir avancé sur un certain nombre de choses dans l'accord, à un nouveau blocage qui est en train de profiler à l'horizon, qui est né d'un certain nombre de prises de position de nos dirigeants, que ce soit dans les gouvernements ou ailleurs. Moi, je rappelle simplement que cet accord, il ne faut pas qu'on se trompe un peu sur les responsabilités dans les engagements. Cet accord n'est pas l'accord du ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas l'accord du ministre de la Réconciliation. Les engagements qui sont pris dans cet accord, c'est les engagements pris par le président de la République qui en est le garant au compte du gouvernement. Donc les yeux sont tournés aujourd'hui vers le président de la République pour vraiment remettre les pendules à l'heure, ramener tous les acteurs sur de bonnes bases de confiance et faire avancer les choses. Il y a des urgences, l'insécurité est en train de grandir, il y a des sérieux problèmes de disponibilité des services sociaux de base pour les populations.
Serait-ce l'esprit de la possibilité de renégocier ou reviser cet accord qui est annoncé par le président de la République?
Je n'ai pas bien compris.
Vous dites que le président de la République doit prendre des mesures pour que cet accord puisse être bien mis en œuvre. Il a annoncé une possibilité de réviser l'accord pour la paix. Est-ce que cette annonce va dans ce sens selon vous?
Pas à nos yeux. À nos yeux, l'accélération de la mise en œuvre de l'accord doit relever de la bonne volonté des autorités, de la bonne volonté des différents signataires et de l'accompagnement réel de la communauté internationale.
Est-ce que cette volonté est une réalité aujourd'hui?
Non, mais c'est ce que vous avez suivi, que la CMA a suspendu pratiquement sa participation à un certain nombre de structures de mise en œuvre de l'accord pour comme réaction à un certain nombre de choses, notamment l'annulation du CSA à Kidal, cette nouvelle idée de rediscuter des dispositions de l'accord, nous ne comprenons pas. Et je vous dis clairement, on est un peu à la limite nous sommes vraiment dans l'étonnement total. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Si on veut la paix, est-ce que le seul outil qu'on a aujourd'hui n'est pas l'outil adéquat pour arriver à la paix? Ou est-ce qu'il faut chaque fois prendre de nouvelles initiatives pour que ça occupe les gens pendant un bon temps sans arriver à une solution, les questions demeurent.
D'accord. Fahad Agal-Mahmoud, est-ce que vous pensez que la bonne foi qui est remise en cause par Souleymane Dey des acteurs est une réalité aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de circonstances qui ont fait que l'accord n'a pas pu avancer. Dans l'absence de la bonne foi des partis, il faut souligner quand même que la
mise... Toutes les parties ou certaines?
Chaque parti a son, a sa part de responsabilité dans les retards qu'a connu l'accord. Tout d'abord, il faut, je voudrais faire une précision. Au début du processus d'Alger, il a été mis en place 4 groupes thématiques pour discuter les aspects politico-institutionnels d'un côté, les aspects de défense et de sécurité, les aspects de développement et les aspects de réconciliation, de vérité, justice et réconciliation. Ce sont ces 4 commissions. Au sein de chaque commission, chaque parti, que ce soit au niveau de la plateforme, la CEMA ou le gouvernement, a fait son document qui a été soumis à la médiation internationale, dont l'accord n'est qu'une synthèse. Ce n'est pas la communauté internationale qui a réfléchi sur le contenu de l'accord. L'accord est tiré des propositions faites par les parties maliennes. Et puisqu'on a la chance d'avoir des universitaires avec nous, moi je pense qu'au lieu de parler du non-dit, il faudrait qu'on nous sorte les passages inapplicables de l'accord et qu'on les discute. L'accord, c'est dans son premier article, le premier alinéa, il reconnaît l'unité nationale du Mali, son intégrité territoriale, sa souveraineté, son caractère républicain et laïque. Hein? Ça, il le connaît. Si des universitaires arrivent à nous sortir un article qui ne respecte pas ceci, qu'on les rediscute. Maintenant, l'esprit malsain, celui, ce n'est pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il faudrait que le gouvernement pousse les gens à avancer. Il faudrait que le gouvernement démontre que les autres partis, s'il y a une partie qui est de mauvaise foi, que le gouvernement qui est en charge de la mise en œuvre de l'accord, le gouvernement qui est en sorte le gardien de la chose publique.
Justement, Ibeka, dans son discours, il a lancé un appel aux groupes armés, je cite, à plus de raisons pour que nos efforts, selon lui, les efforts de toutes les parties ne tendent plus que vers la paix.
Moi, je pense que d'abord, l'accord, monsieur Souleymane avait dit inverser les priorités. L'accord à sa signature, la première priorité, c'est les aspects de défense et de sécurité. C'est-à-dire qu'on va mettre en place les commissions en charge de la mise en œuvre de l'accord. Ensuite, viendra la période de cantonnement et la période du DDR. Ça, c'est la première étape prévue dans l'accord lui-même. Les membres du gouvernement qui représentaient l'État au sein du processus n'ont pas été à la hauteur.
Mais quand le président de la République appelle les groupes armés à plus de raisons, êtes-vous prêt à un meilleur engagement pour la mise
en
œuvre?
Moi, je pense que je l'ai dit et je l'ai redit. Si on a dit qu'on appelle les gens à plus de raisons, celui qui n'a pas raison, qu'on le dise clairement. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Il faudrait qu'on appelle le chat par son nom. Appeler de façon globale, ça ne permet pas de clarifier les choses. Et donc, je l'ai dit, au lieu de commencer par l'accord lui-même, les ministres qui représentaient le gouvernement dans les dossiers ont commencé par les autorités intérimaires. C'est-à-dire la dernière étape de l'accord. C'est ce qui a inversé les tendances. Sinon, l'accord lui-même est à 4 mois déjà, le groupe armé ne serait plus sur le terrain.
D'accord, je vous donne la parole. Souleymane Dey, dans ces conditions, pensez-vous que cet accord pour la paix et la réconciliation est applicable?
Écoutez, comme je l'ai dit, j'ai parlé d'une difficile application de l'accord du fait que des difficultés de mise en œuvre ont émergé, tant au plan matériel qu'organique, mais aussi et surtout au contrôle de l'exécution de cette mise en œuvre. Parce qu'au contrôle de l'exécution de cette mise en œuvre, je l'ai dit et je répète qu'il y a une inversion des priorités, une impuissance du CSA à faire respecter le chronogramme et surtout la timidité des sanctions au blocage des mises en œuvre. Écoutez, nous sommes entre nos Maliens. Nous n'avons pas pris part à ces négociations. Mais ce n'est pas à moi de défendre les propos du professeur. Mais le contexte a changé. Et vous le savez très bien que moi, ici, que pour la première fois dans l'histoire du monde, La négociation d'un accord a échappé, mais je dis bien échappé totalement aux partis. Le timing de cette négociation, c'est la communauté internationale qui l'a dicté. Et les partis ne se sont pas mis autour de la table directement pour discuter. Et on sait que c'est à travers, bien sûr, des propositions écrites et verbales que la communauté internationale pouvait transmettre ou ne pas transmettre. Mais là, on ne se trouve pas le problème. Aujourd'hui, nous l'ont dit, on a un accord qui est en place et les Maliens constatent que cet accord, malheureusement, on ne voit pas un début d'exécution ou du moins, l'impact n'est pas visible. Les dividendes ne sont pas perçus. Et du coup, vous savez très bien qu'à ce niveau, quand on parle de non-dit, oui, il y a un accord principal, mais il y a eu énormément de sous-accords, sans parler du relevé de conclusions. Et ces sous-accords, ce sont des consensus, ou du moins des ententes entre les groupes armés et les gouvernements, qui sont passés ou qui passent sans que le Malien lambda ne sache de quoi il s'agit. Ces sous-accords, bien sûr, créent aujourd'hui un désordre énorme au plan juridique. On ne les connaît pas, ces sous-accords-là. À chaque fois que les caprices, moi je dis comme ça, les caprices des partis signateurs, à chaque fois qu'une partie signataire de l'accord procède à des blocages, on a trouvé des sous-accords, des contournements, etc., etc. Jamais la communauté internationale n'a été capable de dire ouvertement et clairement aux partis, attention, voilà ce que vous avez signé, exécutez. Je suis désolé de dire à mon ami Moussa ici, quand chaque 6 avril à Kidal, on fête l'indépendance de l'Azawad, c'est une faute. Ça ne devait plus se faire. C'est vrai que les groupes séparatistes avaient à un moment donné proposé à aller vers une indépendance, mais à une fois qu'ils sont revenus sur cette décision, je ne vois pas pourquoi on continue à fêter à Kidal l'indépendance de l'Azawad. Et on ne peut pas comprendre que quand une délégation de l'État du Mali arrive à Kidal, que les deux drapeaux flottent. Quand on voit tout cela, ça crée de la confusion et surtout un sentiment de méfiance et de défiance de l'autorité de l'État. Quand on sait aujourd'hui que la priorité des priorités, c'est la sécurisation et le contexte à changer. Aujourd'hui, il faut aller rapidement et très vite vers la reconstruction de notre administration et son redéploiement. C'est à ce seul titre-là qu'on pourrait dire que oui, l'administration est aujourd'hui au plus près des populations à la base. Mais d'accord. Aujourd'hui encore, je le répète, que pour moi, les partis signateurs de l'accord, chacune des partis signateurs, aujourd'hui, a une responsabilité. Mais la responsabilité la plus visible, c'est Kidal. On nous dit que le Mali, Fouad l'a dit, l'article 1 reconnaît l'unité de ces pays, son caractère indivisible. Et si c'est le cas, bien sûr, un des critères juridiques, et bien sûr, quand on a parlé d'État, de personnalité juridique à ce niveau, un des critères, c'est la souveraineté. Est-ce que si beaucoup de personnes remettent en cause cette souveraineté du Mali,
la
c'est
présence
parce que
de l'État,
la présence de l'État,
on va y revenir
problème.
Tout de suite.
Il faudra que la CEMA, à un moment donné, aussi, sur ce point, travaille auprès de ses militants pour leur faire comprendre que oui, nous ne sommes plus avant la signature de l'accord.
D'accord.
Nous avons un accord, il faut aller.
Et on va y revenir. Professeur Issa Ndiaye, certains estiment que l'accord pour la paix et la réconciliation, comme son nom l'indique, j'y arrive, au lieu d'amener la paix et la réconciliation, est devenu un moyen de pression pour chacune des parties.
Ben absolument. Je voudrais réagir rapidement en disant rapidement deux choses. Premièrement, l'histoire ne connaît pas d'exemple où il y a eu un accord donc, entre des parties en conflit qui n'est pas fait l'objet de réajustement. Donc les réajustements sont nécessaires. Et il y a eu beaucoup d'experts qui ont analysé l'accord d'Alger, pas seulement malien, mais même français, et qui expriment donc des doutes quant à la viabilité de l'accord. Si tout était clair à l'accord, si tout était clair dans l'accord qui a été signé, il n'y aurait pas eu les problèmes devant lesquels on se trouve aujourd'hui. Donc il faut regarder les réalités en face, il y a des problèmes. Pourquoi on a créé un comité de suivi? C'est justement parce qu'on se rendait compte dès le départ que dans l'application, il va falloir faire face à des difficultés, à des réadaptations qui sont indispensables et nécessaires à faire. Le relevé des conclusions témoigne de l'effort de réajustement à chaque fois qu'on se trouve devant un problème. Donc il ne faut pas se voiler la face. Moi je pense que le tort du gouvernement a été de signer un accord au nom des populations. Bien sûr, tout le monde sait dans le contexte qu'il a signé dans une situation de faiblesse extrême, ben, sans demander l'avis des populations. Moi, je suis sûr que c'est un acteur important qu'il faut inclure dans la réflexion. Parce que si on se met d'accord par-dessus la tête des populations qui vivent dans ces espaces, il va y avoir des conflits permanents. une guerre civile larvée qui va se dérouler des décennies durant. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut revenir et voir les choses en face. Il y a des dispositions qui sont prévues dans l'accord. Si ça pose problème, il faut qu'on soit à en discuter. Mais ne pas faire des accords, une religion comme si c'était une bulle, on ne pouvait pas revenir dessus. Donc c'est ça l'attitude fondamentale. Maintenant, en ce qui concerne les dispositions pratiques à mettre en place, moi je dis ça à chaque fois, il faut que ça soit, mais il faut créer, comme le disait mon collègue tout à l'heure, une relation de confiance. Le représentant de la CMA accuse chaque fois le gouvernement ou la partie malienne, mais eux aussi, ils doivent faire l'effort de mettre les choses en confiance. Quand on voit ce qui se passe à Kidal, les drapeaux, ça n'amène pas, bien qu'on ait dit que le Mali est un et indivisible, on n'y croit pas trop, parce qu'on voit jusqu'ici. Et je pense que ce n'est plus devenu un problème. Ce n'est plus un problème malien, puisque d'autres pays étrangers, d'autres pays africains en parlent. Le Niger en a parlé, ce n'est pas seulement que le Niger, le Burkina en parle, le Tchad en parle, et le pays de la CEDEAO en parle, tout le monde est inquiet, parce qu'on sait que la source de l'insécurité qui se généralise dans le centre du Mali et en dehors du Mali prend sa source à Kidal. Donc Kidal est devenu un problème. Donc à partir de ce moment, ayons le courage de nous asseoir et d'appeler un chat, et de dire qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas dans Kidal, et qu'est-ce qui ne va pas aussi dans l'application de l'accord. C'est seulement ainsi qu'on arrivera donc à résoudre les difficultés que nous connaissons aujourd'hui.
Alors Moussa, qu'est-ce qui ne va pas à Kidal?
Bon, moi je pense que je vais m'attarder un peu sur les faits, parce que on assiste malheureusement, et c'est pas du tout constructif ces derniers temps, c'est pas à propos du professeur Ndiaye ni du professeur
Souleymane Dé.
C'est une actualité qui a été créée ces derniers temps par un certain nombre d'acteurs étatiques qui n'aident pas à faire avancer les choses. On assiste depuis un certain temps à une focalisation sur Kidal. Et cette focalisation se fait autour d'un certain nombre d'aspects, notamment les symboles de l'État et le retour de l'État, le retour de l'armée à Kidal. Je voudrais qu'on aille dans la profondeur des réalités pour dépasser les superficiels dans lesquels certains acteurs sont en train de chercher à nous amener depuis quelques mois. Kidal, à partir du moment où ce que Fahd a dit tout à l'heure est clairement écrit dans le préambule de l'accord et que nous l'avons signé, il faut le mettre en pratique. Je suis d'accord que ce n'est pas le gouvernement seulement qui doit le mettre en pratique, c'est tout le monde. Mais pour que tout le monde le mette en pratique, il faut que tout le monde soit au même niveau d'engagement pour mettre en œuvre les dispositions qui vont nous permettre de rendre réels ces engagements-là. Quand on prend le cas de Kidal, on déplore quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on déplore à Kidal? Qu'est-ce qu'on reproche à Kidal? On déplore l'absence de l'État, n'est-ce pas? On déplore l'absence de l'armée. On déplore le fait que les drapeaux du Mali ne soient pas visibles partout. Et là, je vais me répéter ça. Les drapeaux, c'est un emblème, un symbole de l'État qui doit être présent là où l'État est présent et qui doit être garanti par une force, la force de défense et de sécurité incarnée par les femmes, et qui doit aussi être encadré par l'ensemble des services de l'État dans la localité. Mais à quoi on assiste aujourd'hui? Comment voulez-vous que les drapeaux flottent dans toute la région de Kidal pendant qu'il n'y a pas un seul service de l'État qu'on ait redéployé? Pendant que l'armée reconstituée, qui doit être l'armée qui sera redéployée, rien n'est encore fait par rapport à cette armée. Dites-moi, où est-ce qu'on va prendre, prendre les soldats qui vont sécuriser ces emblèmes, ces symboles de l'État? C'est l'armée reconstituée qui va le faire. L'armée reconstituée, elle est à son embryon à travers les mécanismes opérationnels conjoints, qui malheureusement a subi lui aussi un plomb dans l'aile avec la fin de la formation et l'éparpillement de ces éléments, l'arrestation de certains, la prise d'otage d'autres par les terroristes. Donc il faut qu'on sache raison garder et attaquer les choses par leurs racines.
Mais ces emblèmes, ensuite, ont-ils besoin d'être sécurisés s'ils sont acceptés par les populations?
À Bamako, est-ce que dans les domiciles des gens, il y a le drapeau malien? Est-ce que dans votre famille, il y a un drapeau? Est-ce que dans mon bureau personnel à la maison, il y a un drapeau? Non. Les drapeaux, on le fait flotter sur un service de l'État. Mais comment on veut faire flotter un drapeau dans un endroit où il n'y a aucun service de l'État? Le seul service de l'État qu'il y a, c'est le gouvernorat. Et là, je mets à défi qui que ce soit qui puisse me dire que quelqu'un est allé un seul jour chez le gouverneur pour lui dire de ne pas planter le drapeau au gouvernorat. Et il y a certains services qui sont officiellement à Kidal, sur le papier, mais dont les responsables refusent de rejoindre Kidal. Il y a la direction de l'hydraulique.
Justement, pourquoi les symboles de l'État et les services de l'État ne sont pas à Kidal?
Parce que l'État n'est pas à Kidal.
Pourquoi?
Parce que l'accord n'est pas en train d'avancer. Parce que l'État doit revenir dans un cadre global compris entre les parties à travers l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Il faut se dire la vérité. On ne va pas prendre l'État à Bamako, le mettre dans des véhicules et le déposer dans un territoire qui a subi un conflit de plus de 6 ans sans que les mécanismes de sa préservation, de sa sécurité, de son contrôle ne soient mis en place. Quelle qu'en soit la bonne foi de la CEMA, elle ne peut pas aujourd'hui vous dire que sa bonne foi suffira pour sécuriser, pour introduire de manière isolée les symboles de l'État. Il faut ramener les symboles de l'État et les lier à l'existence des services de l'État. Et les services de l'État, c'est ça la présence de l'État. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Nous sommes demandeurs aujourd'hui. Nous l'appelons de tous nos voeux que les services de l'État reviennent. Mais les services de l'État doivent s'inscrire aussi dans la dynamique de tous les acteurs pris à travers les engagements de l'accord.
Est-ce la raison pour laquelle le CSA n'a pas pu se tenir à Kidal?
Le CSA, la question du CSA de Kidal, c'est une autre histoire. Et ça, tant qu'il y aura une gestion pareille des choses qui concernent tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Les parties se sont entendues lors de la 37e session du CSA. Elles se sont entendues à faire le CSA à Kidal. Tout le monde était prêt à aller. Et à la veille, on nous informe que ça a été annulé. Bon, je ne vais pas revenir sur ce débat. On l'a eu. On a donné
suffisamment de... Parce que Fahad disait la dernière fois qu'avant que le CSA ne se tienne à Kidal, il faudrait que les services de l'État, d'abord, soient présents à Kidal.
Juste, si vous permettez, que je termine sur le drapeau. On dit qu'on est en train de brandir le drapeau de la ZOAT. La CMA ne brandit pas le drapeau de la ZOAT chaque 6 avril. Mais il y a une situation où les populations sont restées, ont été abandonnées à elles-mêmes depuis 6 ans. Elles ont milité dans des structures, notamment des mouvements de la CMA, et elles ont adopté des formes de mobilisation qui ne peuvent disparaître que à travers le retour de l'État tel que nous sommes en train de le dire et à travers une normalisation de la situation. Aucun cadre, aucun responsable de la CMA ne fait solennellement le 6 avril tel qu'on est en train de vouloir.
D'accord. Fahad, que pensez-vous de cette question de Kidal qui semble être un des principaux blocages dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix?
Merci beaucoup. Pour moi, contrairement à Moussa, le statut de Kidal est une grave violation de l'accord. Pour la simple raison que l'accord lui-même, à partir de sa signature, prévoit une période intérimaire. La période intérimaire, les zones qui échappaient au contrôle de l'État à travers les autorités intérimaires où les parties signataires doivent passer automatiquement sous le contrôle de l'État. Ça, c'est ce que l'accord prévoit. Mais je n'impute pas la responsabilité entièrement à la CEMA. J'impute la plus grande part de la responsabilité au gouvernement du Mali qui accepte à chaque fois des arrangements à très courte durée. C'est le gouvernement qui a accepté d'installer les autorités intérimaires dans une salle et de revenir à la fin de la cérémonie avec tout le monde dans le même hélicoptère. Le gouvernement devrait exiger qu'à partir de ce moment, c'est les mécanismes opérationnels de coordination, les MOC, qui sécurisent Kidal et les autorités intérimaires. C'est ce que l'accord prévoit. Et nous, dans les échanges entre nous, on a été jusqu'à ce que la CEMA, à un moment, a accepté de céder le contrôle de la ville au MOC. Et c'est ce que l'accord prévoit. Une fois que le MOC est là, la localité se doit de sécuriser celui qui est le premier embryon du retour des jurons de la République de la localité qui échappait au contrôle de l'État. Mais l'État céder ses droits. À chaque fois qu'il y a une Assemblée générale des Nations Unies, il faudrait qu'on dise qu'on a avancé et on présentait des avancées de deux ou trois jours qui, en réalité, qui n'avancent à rien. Oh, maintenant, on est parti jusqu'à à ce que les officiels maliens faisaient comme si c'est une victoire de se rendre à Kidal. Le Premier ministre sortant a accepté d'aller sans les forces de sécurité du Mali. Le président lui-même, je ne vais pas le citer parce que le président est parti en tant que candidat. Ça, je peux comprendre ça. Mais le Premier ministre, chef de gouvernement, accepte d'être sécurisé par des groupes qui échappent, qui ne sont pas sous le drapeau national. Et le fait que les gens brandissent aussi d'autres drapeaux, cela veut dire qu'à quelque part, la CIMA n'a pas dit à tous ces militants que nous sommes dans l'accord, nous sommes dans l'intégrité, vous devrez arrêter ce comportement. Et il ne faut pas aussi l'ignorer, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas signataires, qui comptent sur l'enlisement. Ce n'est ni la CIMA, ni la plateforme, ni le gouvernement. Ceci aussi, ils étirent leur épingle du jeu dans cette situation.
Justement, le chapitre 11 de l'accord pour la paix, dans son article 29, estime que les partis réitèrent leur engagement à combattre le terrorisme et ses multiples connexions que sont le crime organisé et le trafic de drogue. Est-ce le cas aujourd'hui?
Moi, je pense que même sur ces points, il y a eu l'article 30, n'est-ce pas? L'article 30, c'est-à-dire que les partis signataires vont donner des hommes et des armes qui vont faire ces opérations et revenir sous la coordination du MOC. Dans l'atelier de haut niveau qui a eu du 12 au 14 décembre 2018 à l'hôtel de l'Amitié, nous avons estimé que c'est très dangereux de combattre le terrorisme en tant que mouvement d'essence communautaire. Il faut que l'État fasse la demande et que les partis vont donner des soldats, les effectifs que l'État a demandé pour tenir ce genre d'opération. L'État ne l'a toujours pas fait. Hein? Si vraiment on n'a pas avancé dans l'accord aujourd'hui, pour moi, je pense que l'État a manqué d'un agenda pour progressivement rétablir le territoire. L'État se contente de certaines avancées qui, en réalité, ne font pas avancer la paix. Et si vous voyez, il y a plus de morts après l'accord qu'avant la signature de l'accord. C'est parce que, en réalité, la communauté internationale et le gouvernement ont fait très peu d'efforts pour mettre fin à la collision entre les mouvements signataires et les mouvements terroristes.
D'accord. Avec tous ces problèmes cités, si l'accord devrait être révisé aujourd'hui, sur quelle base devrait-il l'être, Souleymane Ly?
En fait, mon problème, c'est que, encore une fois de plus, hein, j'ai évoqué la question de bonne foi. Vous voyez que, même tout au long du débat, cette bonne foi s'est mesurée sur le plateau. Aujourd'hui, il est quand même extrêmement difficile pour un État de pouvoir reconstruire son administration et de la redéployer sur l'ensemble du territoire si déjà cet État n'a pas une armée présente sur le dit territoire. Qui est cet agent de l'État qui va accepter d'aller aujourd'hui à Kidal quand il sait que sa sécurité n'est pas garantie? Qui doit sécuriser les biens et les personnes? Ça, c'est l'État. La plénitude de la compétence
en matière... Et estime que les mesures que l'État devrait prendre, notamment...
Exactement.
Ce qui concerne Kidal,
c'est pourquoi je l'ai dit, qu'il y a des caprices à tous les niveaux. Les groupes armés ont fait connaître leurs caprices. Le gouvernement, malheureusement, n'a pas eu suffisamment de vision en la matière. Et tout reste à croire qu'aujourd'hui, que si on doit revenir sur cet accord... D'ailleurs, je vais en profiter pour le dire, il n'y a pas un point dans cet accord qui puisse soulever suffisamment de contradictions quand on sait que toutes les dispositions de l'accord connaissaient un début d'exécution dans ces pays où, bien sûr, on connaissait...
D'accord, le temps nous fait défaut. Rapidement, professeur Issa Ndiaye, que faut-il faire aujourd'hui par rapport à cette possibilité de révision de l'accord pour la paix annoncée par le président?
Bon, je pense qu'il faut donner la parole aux Maliens. Il y a un dialogue national qui se prépare, qui est en cours. Donc, c'est l'occasion d'en discuter. Donc, les Maliens se prononcent. Et il faudrait, la leçon à tirer, il faudrait éviter, surtout au niveau du gouvernement, on aille à chaque fois, en ce qui concerne les problèmes du pays, prendre des instructions à l'extérieur du pays et venir les imposer, et puis prendre des engagements, les signer, sans consulter son propre peuple. Ce n'est pas démocratique, ça ne règle pas le problème.
Merci.
La question donc de la paix est une affaire, l'affaire des Maliens. C'est seulement les Maliens, entre eux, qui peuvent... faire des accords pour arriver véritablement à la paix.
Merci, professeur Ndiaye. Issa Ndiaye, universitaire écrivain, Moussa Gataer de la CMA, Souleymane Ly, constitutionnaliste chargé de cours à l'université de Bamako, et Fahad Ag Al-Mahmoud de la plateforme. À la régie vidéo et audio, Salim Djouara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain grand dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmoni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.